Bonjour à tous ce matin. J'espère que vous portez bien comme moi. Vous allez bien? Bien, que Dieu soit loué. Je suis content d'être avec vous ce matin. Alors, peut-être vous avez constaté ce matin que nous avons quelques-uns de nos responsables qui ne sont pas parmi nous. Je ne sais pas si Stéphane a mentionné cela. Alors, Benoît n'est pas là, Trevor n'est pas là, et puis Michel Penaud. Alors, ils sont montés hier à Saint-Anne-des-Monts pour aller rencontrer Gabriel et Mélanie et l'Église, les responsables là-bas, pour parler avec eux un peu. Donc, s'ils ne sont pas là ce matin, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu tirer la grâce matinée, mais c'est parce que le devoir les appelait là-bas. Donc, souvenez-vous d'eux dans vos prières déjà. On va prier pour eux aussi. On va prier pour introduire ce temps. Notre Dieu, ce matin, nous voulons venir à ta présence dans l'humilité, te dire que nous t'aimons, te louer pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu nous donnes tous les jours, dans ta fidélité, dans ta grande compassion à notre égard. Ce matin, Papa, nous voulons placer, Seigneur, ce moment entre tes mains. Le temps de la prédication, notre Dieu, qui est un moment solennel, un moment important aussi que les autres parties du culte, notre Dieu. Ce matin, Papa, je veux être effacé, je veux que ce soit toi qui parles au travers de moi. Seigneur, comme tu es monté sur l'âne pour entrer à Jérusalem, alors Seigneur, ce matin, je veux être ce âne sur lequel tu vas monter, pour entrer dans le cœur de chaque personne, afin de pouvoir annoncer ta parole efficacement, en commençant par moi-même, notre Dieu. Seigneur, je t'en supplie, tu connais le besoin de chacun de nous, tu connais le besoin de cette assemblée, tu connais le besoin de chaque personne, particulièrement notre Dieu. Alors je te demande qu'au travers de ta parole, repens, console, guéris, essuie les larmes et fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors depuis quelque temps, nous avons commencé à enseigner dans le livre d'Agé. Pour faire la continuité de notre livre de Néhémie qu'on a fini. Et nous sommes en construction continuellement, mais nous continuons avec Néhémie et Agé pour compléter le travail. Alors je crois que Trevor a apporté l'entrée, comme il a dit l'introduction, et Michel a donné sa prédication dimanche dernier, et moi j'apporte le troisième message. Et Trevor viendra pour clore avec un quatrième message, probablement le dimanche prochain. Alors, donc, il y a quatre messages dans Agé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais placer le contexte un peu ce matin. Le contexte dans lequel nous nous trouvons. Le livre d'Agé, si nous comprenons, Israël avait été déporté à Babylone. Et plus tard, Babylone a été dominée par les Perses. Si vous vous souvenez, dans le livre de Néhémie, on a fait un survol de cela. Et à partir de ce moment, Cyrus est venu au pouvoir. Le roi Cyrus a décidé de libérer Israël pour retourner en Israël pour bâtir le temple de Dieu parce que Dieu avait parlé à ce roi-là en songe. Alors, donc, nous pouvons dire qu'en 536, en 38, la première vague qui va partir de Babylone pour venir à Jérusalem vient avec Zorobabel et Josué, le souverain sacrificateur. 50 000 personnes sont rentrées à Jérusalem avec Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué. Et le but ultime pour lequel ils étaient appelés pour rentrer en Israël, c'était parce que Dieu voulait bâtir son église, son temple. Il voulait restaurer Jérusalem. Il voulait ramener Jérusalem à retrouver son éclat depuis le passé. Parce que quand Israël était tombé dans l'apostasie, Dieu a rasé Israël, Jérusalem, totalement. Le temple a été détruit. Il n'y avait plus rien. Et ils arrivent, la première des choses qu'ils font, ils installent l'autel. Pourquoi? Pour commencer le sacrifice, pour commencer l'adoration, pour commencer la célébration de Dieu. Et la deuxième des choses qui va suivre, c'est de poser les fondements du temple, pour commencer à bâtir le temple. Malheureusement, nous connaissons l'histoire pour ceux qui ont lu. Alors, il y a eu l'opposition de la part des ennemis d'Israël qui ne voulaient pas que Israël revienne à sa gloire première. Alors, à partir de ce moment, nos frères israélites qui sont venus de l'exil étaient découragés. Ils avaient peur de leurs ennemis. Ils ont arrêté les travaux. Et plus tard, les travaux vont traîner encore. Après 6 ans, ça va traîner encore 10 autres années. Donc, les travaux en tout ont traîné 16 ans avant que Dieu suscite un prophète. 520 avant Jésus-Christ, qui s'appelle Agée. Et il l'amène en Israël et il le suscite au milieu du peuple pour exhorter le peuple à reprendre les travaux de la construction du temple. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? On se suit? Ok. Donc, c'est dans ce contexte-là, vraiment difficile, que Agée a parlé au peuple. L'économie n'allait plus dans le pays. Tout était à terre. Politiquement, rien n'était bon dans le pays. Instabilité politique, instabilité économique, instabilité spirituelle. Alors, avant de continuer, je vais demander à Matthieu de venir nous lire Agée. Ouvrons nos Bibles dans Agée chapitre 2, versets 10 à 19, s'il vous plaît.
Vous êtes là, troisième livre, troisième avant-dernier livre de l'Ancien Testament, verset 10, Agée 2, 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel désormais. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent, non. Non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent,
oui.
Oui, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Verset 16. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction.
Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Trevor nous a entretenir sur la priorité. Israël, quand ils sont arrivés à Jérusalem, comme je l'ai bien dit au début, ils ont commencé les travaux, mais les travaux n'ont pas continué, ils ont arrêté. Pour toutes les raisons que j'ai avancées. Alors, maintenant, chacun a commencé à s'occuper de lui-même, de son petit moi, de sa petite voiture, de sa petite maison, de son petit champ. Et c'est le moi, le nombrilisme. Et ce pourquoi ils ont quitté Babylone, le but pourquoi ils sont venus en Israël, c'est oublier ou ranger dans les placards. Alors, Dieu va les reprocher cela dans le chapitre 1er. Il dit, vous dites qu'il n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel, Mais est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter dans des maisons lambrisées? Alors, il commence à leur parler, à faire des reproches. La priorité, c'est ma maison. Ce pourquoi je vous ai fait venir là, c'est pour que ma maison soit bâtie. Alors, il ne devait pas avoir une autre priorité en dehors de ça. Israël a oublié son plan. Ils ont oublié pourquoi Dieu les avait enlevés depuis l'Égypte pour les amener dans ce contrée-là. Ils ont oublié pourquoi Dieu avait chassé les nations devant eux. Ils ont oublié tous ces grands miracles que Dieu a fait en traversant, en fendant la mer Rouge comme un morceau de papier pour eux. Ils ont oublié toutes les promesses que Dieu avait faites et tous les engagements que Dieu avait pris pour eux. Et il serait une bénédiction pour les nations. Il serait un phare qui va éclairer les nations. Ils seront un peuple qui va être un modèle pour les nations. Ils seront des hommes et des femmes qui vont donner gloire à Dieu. Et à cause de leur, la crainte qu'ils ont pour l'Éternel, des nations viendront à Israël et à Dieu. Israël avait oublié tout ça. C'est pourquoi ils sont allés en déportation. Ils reviennent et ne continuent pas le travail. Mais la question qu'on nous pose ce matin, nos priorités sont-elles où? Nos priorités sont-elles où présentement? C'est ce qui nous a été demandé la dernière fois. Et Michel est venu parler réellement de la bienveillance de Dieu et la gloire future. Et ce temple qui va être bâti, dont la gloire va être plus grande que la deuxième. Et ce matin, moi, je voudrais vous parler de la sainteté de Dieu. La sainteté, une priorité. Bâtir la maison de Dieu est une priorité. Mais la sainteté aussi est une autre priorité qui fait partie des priorités de Dieu. Dieu les reproche parce qu'ils ne sont pas saints. Nous allons regarder pourquoi il est nécessaire d'être saint. Ésaïe 59, verset 2. On peut regarder ensemble. Ésaïe 59, verset 2. Mais je vais le lire à partir du verset 1. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, pour vous entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La Bible nous dit que la parole de Dieu, que le péché construit un mur entre nous et Dieu. Israël, en négligeant la maison de Dieu, à pécher contre l'Éternel. En ne mettant pas les priorités de Dieu comme leur priorité, la négligence est un péché. Israël a négligé l'œuvre de Dieu. Peu importe les critiques, peu importe les excuses qu'ils ont données, ils ont été négligents dans leurs devoirs, ils ont été négligents dans leurs tâches, ils ont été négligents dans leur ministère, ils ont été négligents pour ce pourquoi ils ont été déplacés pour être là en Israël pour travailler. Alors, c'est pour ça que Dieu les reprend. Premièrement, j'aimerais que nous regardions. On revient à Agé, s'il vous plaît. On va aller avec le verset 10, comme il le dit. Ceci commence la 20e année. Pardon, le 24e année, et jour plutôt, du 9e mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, en ces mots. Premier point, l'inspiration de l'Écriture. Agé ne parle pas de son propre chef. Agé n'a pas entendu, bon, ça fait 16 ans maintenant, les choses ne se font pas, personne ne bouge. Ben, moi, je vais m'autoproclamer prophète, puis je vais me lever, je vais aller voir les gens, je vais les brasser, ils vont se lever, ils vont faire la job. Agé a attendu que Dieu lui parle. L'Écriture nous dit, la parole de la voix de Dieu se fait entendre en ces mots. Donc, Agé est inspiré de Dieu et non de la chair. Inspiré de Dieu et non de ses intentions et de ses caprices. Alors, il est inspiré pour exhorter le peuple à se lever pour bâtir la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question. On n'a pas des prophètes pour nous parler. Quand nous sommes dans une situation précaire, quand l'Église ne va pas dans la direction où elle doit aller, quand le peuple de Dieu ne marche pas, qui l'exhorte? Qui l'incite à se lever pour marcher dans les droits chemins? Qui est la bouche de Dieu aujourd'hui pour nous? Qui est la trompette de l'Éternel au sein de son peuple? La parole de Dieu. Le prophète, c'est la parole de Dieu. La Bible. Au temps d'Agé, peut-être ils n'avaient pas la parole de Dieu pour tout le monde. Dieu suscitait des hommes pour parler de sa part, pour reprendre, pour corriger, pour redresser. Et c'est ce que l'Écriture nous dit dans 2 Timothée 3,16. Car toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt et apte à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est efficace pour nous reprendre. Maintenant, quand la parole de Dieu parle, est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que je l'écoute? Quand Dieu me montre quelque chose dans ma vie, est-ce que j'écoute? Est-ce que j'exécute? Est-ce que j'agis avec empressement? Parce que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Comme prophète Agé a été inspiré de Dieu pour s'adresser au peuple, alors la Bible est une inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle a l'autorité et elle compte. Elle est importante pour nous. Deuxièmement, j'aimerais que nous regardions le verset 11. Il nous dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Pose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche son vêtement, du pain, des mets, du vin, de l'huile, des aliments quelconques et quelque chose, est-ce que ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et la deuxième réponse aussi, nous comprenons qu'il a donné aussi la même chose. Les sacrificateurs répondirent affirmative à la question. Ici, les deux questions sont posées sur le sacerdoce. Les sacrificateurs savent de quoi Agé leur parle. C'est leur règlement intérieur du sacerdoce. Et le sacrificateur devait respecter intégralement toute la parole de Dieu dans l'application de son service, de son ministère dans le sacerdoce. Et s'il manquait un, qu'est-ce qui arrivait? Si le souverain sacrificateur est dans le lieu saint en train de servir et qu'il manquait un des principes qu'il devait faire avant de rentrer là-bas, qu'est-ce qui arrivait? Hein? Il mourait. On va dire, mais c'est dur, hein? On dit, ah, parce que les musiciens, ils n'ont pas fait leur job comme il fallait, ben deux devraient mourir tout de suite, là. Hey! Le prédicateur, il a manqué, il y a un bouton qui manque sur sa chemise et puis, paf! C'est terminé, là. C'était comme ça. Alors, les sacrificateurs savaient ce sur quoi on les interrogeait. Pourquoi Dieu ne parle pas directement au sacrificateur, il passe par Agé? Parce que le sacrificateur, c'était leur loi, parce que c'était leur devoir d'enseigner le peuple, et c'est eux qui instruisaient le peuple. Alors, il va les voir en tant que des leaders. Il leur parle. Puis, il va prendre cette métaphore-là et va dire, « Ainsi est ce peuple devant moi. » Ainsi est Israël. Quand je préparais, je dis, mais en quoi Israël a péché contre l'Éternel? Il dit, ce peuple est souillé. Dieu veut dire à Israël, si quelque chose est sainte, elle ne peut pas être transmise à quelque chose d'autre. La sainteté n'est pas transférable. mais la souillure l'est. Le péché l'est. Nous disons dans notre jargon que quand tu prends une pomme pourrie que tu mets dans le panier, qu'est-ce que ça fait? Mais prends une bonne pomme et puis mets au milieu des pommes pourries. Est-ce que l'inverse est possible? Voilà. Dieu dit, ainsi est ce peuple devant moi. Ainsi est ce peuple devant moi. Ils sont souillés. Y compris les sacrificateurs. Alors donc, leur adoration est nulle devant l'Éternel. À mes yeux, il le dit, on peut le lire, on peut le regarder. Verset 14. Il dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont les œuvres de leurs mains. Les œuvres de leurs mains. Ils se sont levés pour bâtir la maison de l'Éternel. Quand Josué et quand Agé les a appelés pour servir, ils se sont levés. Ils ont commencé à bâtir. Mais sauf que, ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas dit, Seigneur, nous avons été négligents avec ton œuvre. On n'a pas fait ce qui devrait être fait. Maintenant, désormais, nous regrettons sincèrement, nous revenons à toi, alors nous allons bâtir ton œuvre. Dieu a considéré leur négligence comme un péché. Alors, vu qu'ils ont commencé à travailler, c'est bien. Mais Dieu n'est pas satisfait. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu dans l'impureté. On ne peut pas servir Dieu étant malsain, malpropre. C'est ce que le Seigneur est en train de leur dire. Vous voulez m'adorer? Vous voulez venir faire mon œuvre? C'est bien. La volonté est là, c'est bien. Mais quelque chose manque à votre adoration. La sainteté, elle est prioritaire pour moi. Israël se plaignait. On a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Mais on est dans la misère toujours. Il n'y a pas à manger. Les champs n'ont pas donné. Tout est encore stérile. Tout est encore pareil. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être ce matin, tu te poses cette question. Peut-être que je me pose cette question. Peut-être que nous nous posons tous cette question. Quand ça ne va pas dans notre vie, qu'est-ce que j'ai fait, ça ne va pas? Mais Seigneur, cependant, je te sers, mais tu ne me bénis pas. Mais Seigneur, je te sers, mais les choses ne fonctionnent pas. Seigneur, je veux un mari, je te sers, mais tu ne m'en donnes pas. Je veux une femme, je te sers, mais tu ne m'en donnes pas. Je veux une job, mais tu ne m'en donnes pas. Je fais ton œuvre, tu ne m'en donnes pas. Alors la question, qu'est-ce qui est priorité dans ta vie? La bénédiction ou la sainteté? Qu'est-ce qui est priorité dans notre vie? La bénédiction ou la sainteté? Très souvent, naturellement, l'être humain que nous sommes, nous courons vers la bénédiction. Parce que la sainteté, il y a beaucoup de travail à faire. Et on ne veut pas cela. Pour Dieu, avant la bénédiction, la sainteté est prioritaire. Ma question, la sainteté est-elle une priorité dans notre vie? Dans mon ministère, dans ton ministère, dans ta marche de tous les jours et dans notre marche de tous les jours, la sainteté est-elle une priorité? Présentement au Cap, nous sommes levés, nous sommes en train de bâtir la maison de Dieu. C'est bon. Nous sommes en train de bâtir le temple. Nous sommes probablement même quasiment dans les mêmes conditions qu'Israël. C'est pourquoi nous enseignons sur Agé. Nous sommes en train de relever la gloire de Dieu au Cap de la Madeleine. Nous voudrons être une église qui brille pour Dieu. Nous voudrons que les gens sachent que cette église-là est pour Dieu et Dieu est entendu, Dieu est prêché ici, Dieu est glorifié et magnifié ici. Mais on est en train de bâtir dans les deux sens, tant spirituellement que physiquement. Eux, en Israël, ils bâtissaient le temple physiquement. Mais nous, on fait les deux. Parce que pour eux, Dieu résidait dans le temple physiquement. Mais aujourd'hui, le Nouveau Testament nous dit quoi? Que nous sommes le temple et que l'Esprit de Dieu habite où? En nous. Donc, le premier temple à bâtir, c'est toi-même. C'est moi-même. Le premier temple à sanctifier, c'est chacun de nous. à veiller dessus que ce temple-là soit propre. Dieu dit, ma maison est sainte et je suis saint et je veux que ma maison soit sainte. Vous serez saints car je suis saint. Lévitique 19. Quel genre de temple est-ce que nous sommes? Est-ce que nous prenons le temps de travailler sur nous-mêmes? Combien de fois est-ce que nous nous exposons à la parole de Dieu? Et Dieu dit à Israël, il dit, considère tes voies, considère attentivement. Ça veut dire, prête attention, observe comment tu as fonctionné. Avant de me servir, avant de m'apporter tes offrandes, avant de m'apporter tes dons pour les ministères, sois saint d'abord, c'est ce qui est important pour moi. Et après ça, tout te suivra. Et l'Écriture nous dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Hey, ma feuille n'arrête pas de tomber. Excusez. Nous continuons. Et qu'est-ce que Dieu reproche à Israël? Son inactivité et le fait qu'il est souillé. Donc, il n'est pas seulement souillé, mais toutes les œuvres de ses mains sont souillées. Tout ce qui provient de sa main est souillé. Ses dons sont souillés. Ses offrandes sont souillées. Son ministère est souillé. Tout ce qu'il veut faire pour Dieu est souillé. Parce qu'eux-mêmes, ils sont souillés. Quand j'étais je venais de me convertir nouvellement, je devais parler l'évangile aux musulmans. Et quand je les présentais, j'expliquais quelque chose. Je prenais une métaphore pour les amener à comprendre. Et la métaphore est celle-ci. On dit celle-ci, c'est une métaphore, n'est-ce pas? On dit, c'est ça, non? Ok, je leur disais, écoutez là. Imaginez-vous, ils disent que Adam a fait 6000 ans dans le paradis. Mais il a fait un seul péché, Dieu l'a chassé du paradis. Je leur montre cela, parce qu'ils croient encore à la balance. Pour être sauvé par le poids, il y en a plusieurs saluts selon les musulmans. Alors, je leur pose la question. Adam a fait 6000 ans dans le paradis, mais il a fait un seul péché. Dieu l'a chassé. S'il ne comprend pas ça, je dis, imagine-toi, ton enfant, il est allé jouer dans la boue. Mais il voit papa en train de venir, il est content. Et il veut t'apporter du pain. Il va prendre le pain sans se laver les mains. Il prend le pain. « Hey, papa, je t'aime !» Puis il vient te donner. Le papa, il va prendre par respect pour l'enfant. Mais est-ce qu'il va manger? Parce que c'est plein de boue. Israël, ses œuvres étaient pleines de boue parce qu'ils avaient péché eux-mêmes. Donc tout ce qui sortait d'eux pour aller vers Dieu n'était pas sain. Dieu ne voulait pas. C'est pourquoi il dit « Ce peuple est souillé devant moi. » Comment est-ce que Dieu, dans son regard céleste, nous voit quand il nous regarde? Quand il a porté le regard sur l'offrande d'Israël, c'était impur. Comment Dieu nous voit, nos offrandes, nos dons? Je ne suis pas en train de mépriser quoi que ce soit. Nous devons donner pour servir le Seigneur. On veut le faire. Mais servons Dieu dans la sainteté. C'est ce qui compte. Si ce n'est pas fait dans la sainteté, l'Éternel n'en veut pas. Peu importe le prix que tu donnes, ce n'est pas fait dans la sainteté, ça ne sert à rien. Alors, quand il dit « attentivement », il appelle le peuple au verset 15. Et nous dit « Considère donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de vin, mesure, il n'y avait que 10. Quand on venait à une cuvée, à une cuve plutôt, parce que dans d'autres versions, je l'ai lu, excusez, à une cuve, pour puiser 50 mesures, il n'y avait que 20. Pourquoi? Parce que j'ai frappé par la rouille, par le niel, par la grêle, et j'ai frappé tout le travail de vos mains. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel des armées. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, et depuis ce jour où le temple de l'Éternel a été fondé. considérer attentivement. Vous voyez, le mot considérer revient combien de fois? 3 fois ici. Mais ce mot-là revient plusieurs fois dans tout le chapitre de Néhémie, d'Agé. Considérez. Porte attention. Observe bien les choses. Pourquoi tu es dans toutes ces situations plutôt que de te plaindre, je ne suis pas béni, je n'ai pas si. Observe bien les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois régler. Dieu exhorte Israël à revenir. Il dit, je vous ai frappé, vous n'êtes pas revenu. C'est moi qui ai fait qu'il y a la sécheresse sur vous. Votre économie, ça ne tourne pas. C'est moi qui ai fait ça. Tu n'as pas de job, c'est moi qui ai fait ça. Tu t'en vas, tu travailles beaucoup dans ton champ ou dans ta ferme, et puis ça produit peu, c'est moi l'Éternel. Ce n'est pas la main d'un étranger, ce n'est pas le roi Assyrie, c'est moi Dieu qui a fermé les cieux. Jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que nous comprenions que la sainteté est une priorité pour lui et que son œuvre doit prendre la priorité dans notre vie. C'est ça qu'il est en train de dire à Israël. C'est moi qui ai fermé les cieux. Et si nous nous souvenons dans 2 Chroniques 7:14, quand Salomon a bâti le premier temple et qu'il a honoré l'Éternel avec, à la dédicace, Dieu s'est révélé et Dieu dit à Israël. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vient à moi, je bénirai et je guérirai son pays. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Alors désormais, mes oreilles seront attentives à ces prières faites dans ces lieux. Mes yeux seront désormais là et je les écouterai. J'exaucerai leurs prières. Faites en ces lieux. C'est ce que Dieu dit à Israël dans la dédicace. Dieu promet à la même place là où Dieu a dit cette parole là, c'est à la même place qu'Israël est en train de bâtir le temple, de rebâtir le temple. Même place là. Dieu avait déjà dit ça plusieurs années auparavant. Il leur dit, maintenant, Israël, vous voulez me servir? Cette promesse-là a été faite depuis longtemps. J'ai promis que si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Je vous bénirai. Vous pouvez être guéri et avoir de l'espérance. La bénédiction sera là. Mais la condition, revenir à l'Éternel, se sanctifier et être propre. Amen. Et c'est ce que Dieu dit à Israël. Dans le verset 19, quand nous regardons, il dit, y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le grenadier et le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Dieu veut te bénir, mon frère. Dieu veut nous bénir comme assemblée. Dieu veut que nous soyons bénis, c'est son désir. Dans le ciel, l'Écriture nous dit que, dans la Bible, Jérémie 17, il dit, « J'ai formé un projet de paix sur vous et non un projet de malheur, pour vous donner un avenir comment ?» Meilleur. Ça, c'est le désir de Dieu pour vous et pour nous, pour son peuple et pour l'Église. Mais une condition est nécessaire. C'est quoi? Sa sainteté. Et chercher la sainteté, alors si nous sommes dans un état de péché, nous devons nous repentir pour revenir. La sainteté est une priorité. C'est le moyen par lequel nous pouvons servir Dieu efficacement et notre service va être agréé. S'il n'y a pas de sainteté dans notre travail, chante comme tu veux. Chante mieux que Céline Dion. Ça vaut rien. En bon québécois, c'est de la chenoute. Vous comprenez? C'est ça. Alors, soyons conséquents. Soyons des hommes et des femmes de Dieu qui veulent la sainteté d'abord avant la bénédiction. La bénédiction, c'est naturel. Si Dieu est satisfait, si Dieu est à la première place dans notre vie, si Dieu se trouve là où il devrait être, Si les plans de Dieu sont nos plans, le projet de Dieu notre projet, la pensée de Dieu notre pensée, les points, tout ce que Dieu veut est notre priorité, alors je vous dis, vous n'avez même pas besoin de demander « Dieu bénis-moi ». La bénédiction va suivre. Parce que dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est naturel si Dieu est premier. Ça va suivre. Soyons obéissants. Saints, la sanctification. La sanctification, un pas vers la bénédiction. Retenez ça au moins. La sanctification, un pas vers la bénédiction. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté. Nous voulons te demander pardon en tant qu'Église, en tant que dirigeant, en tant que responsable, en tant que père de famille. Seigneur, au nom de mes frères et moi, te demander pardon toutes les fois où nous t'avons offensé. Toutes les fois où nous avons fait ton travail avec négligence, papa, nous avons péché contre toi et nous te demandons pardon. Toutes les fois, papa, où nous avons mis tes priorités à côté et faire d'autres priorités, Seigneur, nous avons péché contre toi et nous te demandons pardon. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Déagréez nos prières maintenant, Seigneur. Et que désormais tout ce qui peut nous séparer de toi ne soit plus. Et que désormais, que la voie soit libre, comme tu l'as dit dans ta parole. Christ est mort à la croix pour nous. Il est notre sanctification, Seigneur. Et nous croyons en cela. Et aide-nous à marcher dans cette sanctification tous les jours, pour toi et pour ta gloire. Bénis ton peuple que nous sommes. Et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.